Test de compréhension orale. Exercice 1. Vous allez entendre une journaliste parler d'un type de stage proposé à des lycéens en 2020. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous. Puis vous entendrez l'enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, décidez quelle est la réponse correcte A, B, C ou D pour chaque question 1 à 7. Mettez une croix dans la bonne case sur la feuille de réponse. La première réponse, 0, est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
Bonjour Lauriane.
Bonjour Melchior.
Alors, quelle est votre trouvaille de la semaine?
Alors, cette semaine, Melchior, je vous emmène à Fougères, en Ille-et-Vilaine, à la rencontre des premières métiers du commerce et de la vente du lycée Saint-Joseph. Alors, pour tout vous dire, fin octobre, ces lycéens n'en menaient pas large. Quasiment tout leur stage avait été annulé à cause du Covid-19. Et c'est à ce moment-là que l'une de leurs profs, Madame Chevalier-Duclos, leur a proposé de faire un stage un peu spécial, puisqu'il s'agit d'apporter bénévolement leurs compétences numériques à toutes les entreprises de la commune.
Donc un stage bien spécial, on l'entend. Lauriane, ça fonctionne comment concrètement?
Alors concrètement, les 40 lycéens ont reçu une petite formation en commerce digital et puis hop, ils se sont lancés. Ils ont démarché tout seuls pendant une semaine tous les commerçants aux alentours pour leur offrir leur aide. Et puis depuis le 16 novembre, ils se déplacent par binôme dans toutes les entreprises intéressées pour les aider, je sais pas, par exemple à créer leur site internet, à développer leur présence sur les réseaux sociaux ou encore à mettre en place de la vente en ligne. Moi, je trouve que c'est vraiment une belle idée parce que ça répond à deux besoins, à la fois celui des lycéens qui doivent absolument faire un stage pour valider leur année et puis aussi celui des commerçants qui ont bien besoin de développer leur offre sur internet pour continuer à vivre en ces temps de Covid.
Et vous avez eu des retours des lycéens, Lauriane. Que pense-t-il de ce stage qui est pas comme les autres?
Alors, j'ai parlé en visio la semaine dernière avec Titouan et Swan, qui ont 16 et 17 ans. C'est leur premier stage, donc un peu spécial, mais ils sont franchement ravis. Ils m'ont dit qu'ils se sentent utiles, que ça leur fait du bien d'aider des commerçants. Et puis, c'est du donnant-donnant parce que les entreprises leur apportent aussi leurs compétences. Titouan a par exemple appris à faire une carte de visite et Swan, elle, a découvert ce qu'est un cahier des charges. Et ils se sentent aussi autonomes, donc c'est valorisant pour eux parce que c'est à eux de faire leur propre emploi du temps en fonction des besoins des entreprises. Bref, ça n'a rien à voir avec un stage d'observation, vous le voyez bien, Melchior. Et puis, il faut aussi dire que Titouan et Swan sont meilleurs amis. Alors forcément, ils sont très très contents de passer leur journée ensemble.
En tout cas, ce projet, il peut inspirer d'autres lycéens.
Tout à fait. C'est une super alternative pour les lycéens en mal de stage à cause de la pandémie. Et puis en fait, c'est pas si difficile à mettre en place. Le lycée Saint-Joseph a monté ce projet en seulement une semaine. Donc Madame Chevalier-Duclos a présenté son idée à la mairie de Fougères, à la Chambre de commerce et d'industrie, et puis aussi à l'association des commerçants. Et tous ont tout de suite dit banco, parce qu'ils voient bien l'intérêt de cette action de solidarité qui fait se rencontrer les commerçants d'aujourd'hui. Et puis ces jeunes qui sont en fait les commerçants de demain.
Eh bien, merci beaucoup, Lauriane Clément. On vous retrouve tous les 15 jours dans les pages de Phosphore, le magazine des jeunes qui se bougent, avec cette semaine l'histoire de Brian qui vient d'ouvrir sa propre boulangerie. Bonjour Lauriane.
Bonjour Melchior.
Alors, quelle est votre trouvaille de la semaine?
Alors, cette semaine, Melchior, je vous emmène à Fougères, en Ille-et-Vilaine, à la rencontre des premières métiers du commerce et de la vente du lycée Saint-Joseph. Alors, pour tout vous dire, fin octobre, ces lycéens n'en menaient pas large. Quasiment tout leur stage avait été annulé à cause du Covid-19. Et c'est à ce moment-là que l'une de leurs profs, Madame Chevalier-Duclos, leur a proposé de faire un stage un peu spécial, puisqu'il s'agit d'apporter bénévolement leurs compétences numériques à toutes les entreprises de la commune.
Donc un stage bien spécial, on l'entend. Lauriane, ça fonctionne comment concrètement ?
Alors concrètement, les 40 lycéens ont reçu une petite formation en commerce digital. Et puis hop, ils se sont lancés. Ils ont démarché tout seuls pendant une semaine tous les commerçants aux alentours pour leur offrir leur aide. Et puis depuis le 16 novembre, ils se déplacent par binôme dans toutes les entreprises intéressées pour les aider, je sais pas, par exemple, à créer leur site internet, à développer leur présence sur les réseaux sociaux, ou encore à mettre en place de la vente en ligne. Moi, je trouve que c'est vraiment une belle idée parce que ça répond à deux besoins. À la fois celui des lycéens qui doivent absolument faire un stage pour valider leur année, et puis aussi celui des commerçants qui ont bien besoin de développer leur offre sur internet pour continuer à vivre en ces temps de Covid.
Et vous avez eu des retours des lycéens, Lauriane. Que pensent-ils de ce stage qui est pas comme les autres ?
Alors, j'ai parlé en visio la semaine dernière avec Titouan et Swan, ouais, qui ont 16 et 17 ans. C'est leur premier stage, donc un peu spécial, mais ils sont franchement ravis. Ils m'ont dit qu'ils se sentent utiles, que ça leur fait du bien d'aider des commerçants. Et puis, c'est du donnant-donnant parce que les entreprises leur apportent aussi leurs compétences. Titouan a, par exemple, appris à faire une carte de visite et Swan, elle, a découvert ce qu'est un cahier des charges. Et ils se sentent aussi autonomes, donc c'est valorisant pour eux parce que c'est à eux de faire leur propre emploi du temps en fonction des besoins des entreprises. Bref, ça n'a rien à voir avec un stage d'observation, vous le voyez bien, Melchior. Et puis, il faut aussi dire que Titouan et Swan sont meilleurs amis. Alors forcément, ils sont très très contents de passer leur journée ensemble.
En tout cas, ce projet, il peut inspirer d'autres lycéens.
Tout à fait. C'est une super alternative pour les lycéens en mal de stage à cause de la pandémie. Et puis en fait, c'est pas si difficile à mettre en place. Le lycée Saint-Joseph a monté ce projet en seulement une semaine. Donc Madame Chevalier-Duclos a présenté son idée à la mairie de Fougères, à la Chambre de commerce et d'industrie, et puis aussi à l'association des commerçants. Et tous ont tout de suite dit banco, parce qu'ils voient bien l'intérêt de cette action de solidarité qui fait se rencontrer les commerçants d'aujourd'hui. Et puis ces jeunes qui sont en fait les commerçants de demain.
Eh bien, merci beaucoup, Lauriane Clément. On vous retrouve tous les 15 jours dans les pages de Phosphore, le magazine des jeunes qui se bougent, avec cette semaine l'histoire de Brian qui vient d'ouvrir sa propre boulangerie.
Exercice 2. Vous allez entendre une interview de Claudie Aigneret qui est allée deux fois dans l'espace. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous. Puis vous entendrez l'enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, complétez les phrases 1 à 8 en 4 mots au maximum. Écrivez vos réponses dans les cases prévues sur la feuille de réponse. La première réponse, 0, est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
À 7h25, comme tous les vendredis, voici le Comme Personne, le portrait de Claudie ignoré aujourd'hui. Ça fait 20 ans que l'ancienne cosmonaute est rentrée de sa dernière mission à bord de la Station Spatiale Internationale. Elle a 64 ans, elle demeure un exemple de réussite et un modèle pour les jeunes. Elle est revenue avec vous, Maxime Tellier, sur son parcours. Comment oser prendre des risques ou faire avec l'échec?
Elle appartient à un cercle très fermé, celui des 574 humains ayant volé dans l'espace à ce jour, de ceux qui ont osé et réussi la sélection impitoyable pour devenir astronaute. Seule femme choisie sur 1000 candidats par l'Agence spatiale française en 1985, Claudie Aigneret voyait l'opportunité d'une aventure humaine notamment, en dépit des probabilités infimes de succès.
J'étais quelqu'un qui avait plutôt envie de découvrir où étaient mes limites. Aller, par exemple, sur des tests physiologiques de la sélection qui étaient, bon, peut-être un petit peu exotiques par rapport à notre vie habituelle. Moi, ça me tentait. J'y allais pas avec stress, j'y allais avec plaisir. Donc, j'ai plutôt vécu cette sélection comme, voilà, des étapes successives à franchir et tout se passait bien. Et je me découvrais en même temps que j'avançais sur le chemin.
La sélection a duré 6 mois où elle a énormément travaillé. Eu un peu de chance aussi, elle le reconnaît, pour surmonter les tests psychologiques, cognitifs, physiques, médicaux, les entretiens où il fallait être brillant au meilleur de sa forme, dans un contexte de compétition face aux autres concurrents.
Je donne pas de recette de réussite, parce qu'il n'y a pas de recette de réussite particulière. L'audace de tenter des choses et puis de se dire qu'on doit être le plus possible responsable de ses choix. Et ne pas écouter les contraintes que d'autres à l'extérieur vont vous mettre. Vous en avez déjà suffisamment dans la tête. C'est pas la peine d'écouter celle des autres.
Quand elle est sélectionnée, Claudie Aigneret est rhumatologue à l'hôpital Cochin à Paris. Déjà docteur en médecine, elle commence un second doctorat en sciences pour assurer ses chances d'être assignée à une mission spatiale. Elle est surnommée Bac plus 19 et vole finalement sur la station Mir en 96 et dans la Station Spatiale Internationale en 2001 où elle voit enfin la Terre de l'espace.
Aurore boréale, j'en avais jamais vu seule. Les premières que j'ai vues, c'est par le hublot de Soyouz. Vous voyez ces milliers de kilomètres parcourus par des ébrures de rage au moment des moussons par exemple. Il y a des choses absolument extraordinaires. Les couleurs des lacs en Amérique latine, les chaînes de l'Himalaya, la Mauritanie, les déserts, il y a des couleurs absolument somptueuses. Donc vous êtes effectivement fascinée et émerveillée par la beauté de la planète.
Elle passe en tout 26 jours là-haut, mais vit également l'aventure spatiale au sol, 10 ans à la Cité des Étoiles, près de Moscou, témoin de la fin de l'URSS et de la coopération entre ex-nations ennemies. C'est aussi la rencontre avec son mari, l'astronaute Jean-Pierre Aigneret. Et même si aujourd'hui, leur fille de 24 ans ne veut pas être astronaute, elle refuse même de prendre l'avion, Claudie Aigneret continue de transmettre sa passion aux jeunes générations.
Je vis en ce moment des moments passionnants en accompagnant des jeunes femmes, pas que des jeunes femmes, mais beaucoup de jeunes femmes, sur la sélection actuelle de l'Agence spatiale européenne, avec les premières étapes, et la sélection finale sera en octobre l'année prochaine, encore une année de processus. Mais j'ai beaucoup de jeunes femmes qui m'ont contactée au tout début, avant de se lancer, avant de candidater, et puis qui me tiennent au courant. On a passé la première épreuve, voilà. Je vais peut-être servir un petit peu à quelque chose pour certaines, pour leur donner le petit peps qui leur a permis de pousser la porte.
Et sur 22 000 candidats européens, 24% sont des femmes, statistique en nette hausse par rapport aux chiffres actuels, 10% de femmes seulement parmi les astronautes.
À 7h25, comme tous les vendredis, voici le Comme Personne, le portrait de Claudie Aigneret aujourd'hui. Ça fait 20 ans que l'ancienne cosmonaute est rentrée de sa dernière mission à bord de la Station Spatiale Internationale. Elle a 64 ans, elle demeure un exemple de réussite et un modèle pour les jeunes. Elle est revenue avec vous, Maxime Tellier, sur son parcours. Comment oser prendre des risques ou faire avec l'échec?
Elle appartient à un cercle très fermé, celui des 574 humains ayant volé dans l'espace à ce jour, de ceux qui ont osé et réussi la sélection impitoyable pour devenir astronaute. Seule femme choisie sur 1000 candidats par l'Agence spatiale française en 1985, Claudie Aigneret voyait l'opportunité d'une aventure humaine notamment, en dépit des probabilités infimes de succès.
J'étais quelqu'un qui avait plutôt envie de découvrir où étaient mes limites. Aller, par exemple, sur des tests physiologiques de la sélection qui étaient, bon, peut-être un petit peu exotiques par rapport à notre vie habituelle. Moi, ça me tentait. J'y allais pas avec stress, j'y allais avec plaisir. Donc, j'ai plutôt vécu cette sélection comme, voilà, des étapes successives à franchir et tout se passait bien. Et je me découvrais en même temps que j'avançais sur le chemin.
La sélection a duré 6 mois où elle a énormément travaillé. Elle a eu un peu de chance aussi, elle le reconnaît, pour surmonter les tests psychologiques, cognitifs, physiques, médicaux, les entretiens où il fallait être brillant, au meilleur de sa forme, dans un contexte de compétition face aux autres concurrents.
Je donne pas de recette de réussite, parce qu'il n'y a pas de recette de réussite particulière. L'audace de tenter des choses et puis de se dire qu'on doit être le plus possible responsable de ses choix. Et ne pas écouter les contraintes que d'autres à l'extérieur vont vous mettre. Vous en avez déjà suffisamment dans la tête. C'est pas la peine d'écouter celle des autres.
Quand elle est sélectionnée, Claudie Aigneret est rhumatologue à l'hôpital Cochin à Paris, déjà docteur en médecine. Elle commence un second doctorat en sciences pour assurer ses chances d'être assignée à une mission spatiale. Elle est surnommée Bac plus 19 et vole finalement sur la station Mir en 96 et dans la station spatiale internationale en 2001 où elle voit enfin la Terre de l'espace.
Aurore boréale, j'en avais jamais vu au sol. Les premières que j'ai vues, c'est par le hublot de Soyouz. Vous voyez ces milliers de kilomètres parcourus par des ébrures de rage au moment des moussons par exemple. Il y a des choses absolument extraordinaires. Les couleurs des lacs en Amérique latine, les chaînes de l'Himalaya, la Mauritanie, les déserts, il y a des couleurs absolument somptueuses. Donc vous êtes effectivement fascinée et émerveillée par la beauté de la planète.
Elle passe en tout 26 jours là-haut, mais vit également l'aventure spatiale au sol, 10 ans à la Cité des Étoiles, près de Moscou, témoin de la fin de l'URSS et de la coopération entre ex-nations ennemies. C'est aussi la rencontre avec son mari, l'astronaute Jean-Pierre Aigneret. Et même si aujourd'hui, leur fille de 24 ans ne veut pas être astronaute, elle refuse même de prendre l'avion, Claudie Aigneret continue de transmettre sa passion aux jeunes générations.
Je vis en ce moment des moments passionnants en accompagnant des jeunes femmes, pas que des jeunes femmes, mais beaucoup de jeunes femmes, sur la sélection actuelle de l'Agence spatiale européenne, avec les premières étapes, et la sélection finale sera en octobre l'année prochaine, encore une année de processus. Mais j'ai beaucoup de jeunes femmes qui m'ont contactée au tout début, avant de se lancer, avant de candidater, et puis qui me tiennent au courant. On a passé la première épreuve, voilà. Je vais peut-être servir un petit peu à quelque chose pour certaines, pour leur donner le petit peps qui leur a permis de pousser la porte.
Et sur 22 000 candidats européens, 24% sont des femmes, statistiques en nette hausse par rapport aux chiffres actuels, 10% de femmes seulement parmi les astronautes.
Exercice 3. Vous allez entendre de bonnes nouvelles sur plusieurs thèmes. La restauration, la vie durable, les animaux. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous. Puis vous entendrez l'enregistrement 2 fois. Pendant l'écoute, reliez les nouvelles aux affirmations A à K. Il y a 2 affirmations dont vous n'aurez pas besoin. Écrivez vos réponses dans les cases prévues sur la feuille de réponse. La première réponse, 0. Et donnez un exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses. Nouvelle 1.
Bonjour Sylvain, allez, des bonnes nouvelles. Et d'abord, on va parler de la lutte contre le gaspillage alimentaire avec plusieurs acteurs du dossier qui prennent des engagements, espérant évidemment être rejoints par d'autres.
Oui, ils sont 38 distributeurs, associations de consommateurs, industriels de l'agroalimentaire qui viennent de signer un pacte sur les dates de consommation. Ils ont pris 10 engagements concrets, dont celui de tester en magasin des rayons anti-gaspille. Il s'agit également d'expliquer aux consommateurs ce qu'est une date limite de consommation et une date de durabilité minimale. Mmh. Exemple, avec les yaourts qui sont encore consommables plusieurs jours, voire plusieurs semaines après la date écrite sur l'emballage. Les signataires s'engagent aussi à valoriser les produits exclus des circuits de vente. C'est l'association Anti-Gaspi dont on a souvent parlé ici.
Nouvelle 2.
Et puis, autre bonne nouvelle pour les animaux abandonnés.
Oui, alors selon les chiffres de la SPA, le nombre d'adoptions a fortement augmenté en 2019. 42 971 animaux ont trouvé une famille d'accueil. C'est 13% de plus qu'en 2018. C'est beaucoup. Tous les animaux sont concernés, chiens et chats bien sûr, mais aussi les NAC. Les NAC, comprenez, les nouveaux animaux de compagnie comme les rongeurs ou encore les reptiles. Et puis l'autre bonne nouvelle, c'est que la SPA n'a compté que très peu de retours d'adoption, aux alentours de 3,9%.
Nouvelle 3.
Puisque la France a réussi le virage de la pêche raisonnée et raisonnable.
Oui, dans son dernier bilan, l'Ifremer annonce que près de la moitié des prises de poissons en France sont désormais issues des populations exploitées durablement. Exemple avec le thon rouge de Méditerranée, trop longtemps victime de surpêche, on a frôlé la catastrophe. Mais grâce à l'adoption de quotas drastiques, l'espèce, particulièrement appréciée des gourmets, est en cours de reconstitution. Aujourd'hui, les connaissances se sont améliorées concernant le mode de vie des poissons. Les périodes de reproduction, on mesure beaucoup mieux la ressource disponible. Les outils de pêche sont plus sélectifs aussi. Il faut poursuivre les efforts. Certaines espèces restent en situation critique, comme par exemple le cabillaud en mer celtique. Mais la tendance est très bonne.
Nouvelle 4.
Et puis sinon, des perroquets bleus menacés d'extinction ont été rapatriés au Brésil afin d'être réintroduits bien dans leur milieu naturel.
Une cinquantaine d'aras de Spix, une espèce de magnifique perroquet bleu, sont arrivés hier au Brésil en provenance d'Allemagne. Les oiseaux doivent rejoindre la petite ville de Curaçá dans l'état de Bahia. Ils resteront encore quelques temps en captivité dans un centre spécial afin qu'ils puissent se reproduire. Ils seront ensuite relâchés en pleine nature. L'ara de Spix est une espèce originaire du nord-est du Brésil. Il ne reste aujourd'hui que quelques dizaines de spécimens en captivité. La population a baissé drastiquement.
Nouvelle 5.
Avec Kei Kobayashi, on est dans le raffinement le plus total. C'est une première pour un chef venu du pays du soleil levant, le Graal. 3 étoiles pour son restaurant ouvert en 2011 près du Louvre à Paris et sobrement baptisé Kei. Son histoire est particulière. Il s'est pris de passion pour la cuisine, haute définition, lorsqu'il était tout petit chez lui. Il avait 8 ans. Il venait de visionner un reportage à la télévision nippone sur le chef français Alain Chapelle. Son destin était tracé. Après une première expérience au Japon, il arrive en France pour travailler aux côtés des plus grands, dont Alain Ducasse. Ensuite, c'est une ascension fulgurante. Le restaurant qu'il ouvre à Paris reçoit une première étoile en 2012, un an seulement après son ouverture. 2 étoiles en 2017 et donc 3 étoiles cette année. On se met l'eau à la bouche avec l'une des signatures.
Nouvelle 6.
Le journal Le Parisien aujourd'hui en France annonce que pour la première fois, 50 restaurants seront distingués pour leurs efforts en matière de respect de l'environnement. Une nouvelle catégorie baptisée gastronomie durable. La distinction apparaîtra sur le site et l'application mobile du guide, représentée par un pictogramme en forme de feuille. Le Michelin veut mettre en avant une dynamique portée par des chefs qui s'engagent pour avoir un impact positif sur la planète et sur la société. L'un de ceux qui seront d'ailleurs récompensés ce soir et dont Le Parisien révèle le nom, c'est Bruno Verju du restaurant La Table. Lui, il a pris l'habitude de travailler au jour le jour en fonction de ce que les producteurs lui apportent chaque matin. À lui ensuite de fabriquer son menu, si j'ose dire, au dernier moment. D'autres ont décidé de se lancer dans l'agriculture en cultivant leurs propres légumes et à moins de 50 km du restaurant.
Nouvelle 1.
Bonjour Sylvain Vallée, des bonnes nouvelles. Et d'abord, on va parler de la lutte contre le gaspillage alimentaire avec plusieurs acteurs du dossier qui prennent des engagements, espérant évidemment être rejoints par d'autres.
Oui, ils sont 38 distributeurs, associations de consommateurs, industriels de l'agroalimentaire qui viennent de signer un pacte sur les dates de consommation. Ils ont pris 10 engagements concrets, dont celui de tester en magasin des rayons anti-gaspille. Il s'agit également d'expliquer aux consommateurs ce qu'est une date limite de consommation et une date de durabilité minimale. Mmh. Exemple, avec les yaourts qui sont encore consommables plusieurs jours, voire plusieurs semaines après la date écrite sur l'emballage. Les signataires s'engagent aussi à valoriser les produits exclus des circuits de vente. C'est l'association Anti-Gaspi dont on a souvent parlé ici.
Nouvelle 2.
Et puis, autre bonne nouvelle pour les animaux abandonnés.
Oui, alors selon les chiffres de la SPA, le nombre d'adoptions a fortement augmenté en 2019. 42 971 animaux ont trouvé une famille d'accueil. C'est 13% de plus qu'en 2018. C'est beaucoup. Tous les animaux sont concernés, chiens et chats bien sûr, mais aussi les NAC. Les NAC, comprenez, les nouveaux animaux de compagnie comme les rongeurs ou encore les reptiles. Et puis l'autre bonne nouvelle, c'est que la SPA n'a compté que très peu de retours d'adoption, aux alentours de 3,9%.
Nouvelle 3.
Puisque la France a réussi le virage de la pêche raisonnée et raisonnable.
Oui, dans son dernier bilan, l'Ifremer annonce que près de la moitié des prises de poissons en France sont désormais issues des populations exploitées durablement. Exemple avec le thon rouge de Méditerranée, trop longtemps victime de surpêche. On a frôlé la catastrophe, mais grâce à l'adoption de quotas drastiques, l'espèce, particulièrement appréciée des gourmets, est en cours de reconstitution. Aujourd'hui, les connaissances se sont améliorées concernant le mode de vie des poissons. Les périodes de reproduction, on mesure beaucoup mieux la ressource disponible. Les outils de pêche sont plus sélectifs aussi. Il faut poursuivre les efforts. Certaines espèces restent en situation critique, comme par exemple le cabillaud en mer celtique. Mais la tendance est très bonne.
Nouvelle 4.
Et puis sinon, des perroquets bleus menacés d'extinction ont été rapatriés au Brésil afin d'être réintroduits bien dans leur milieu naturel.
Une cinquantaine d'aras de Spix, une espèce de magnifique perroquet bleu, sont arrivés hier au Brésil en provenance d'Allemagne. Les oiseaux doivent rejoindre la petite ville de Curaçá dans l'état de Bahia. Ils resteront encore quelques temps en captivité dans un centre spécial afin qu'ils puissent se reproduire. Ils seront ensuite relâchés en pleine nature. L'ara de Spix est une espèce originaire du nord-est du Brésil. Il ne reste aujourd'hui que quelques dizaines de spécimens en captivité. La population a baissé drastiquement.
Nouvelle 5.
Avec Kei Kobayashi, on est dans le raffinement le plus total. C'est une première pour un chef venu du pays du soleil levant, le Graal. 3 étoiles pour son restaurant ouvert en 2011 près du Louvre à Paris et sobrement baptisé Kei. Son histoire est particulière. Il s'est pris de passion pour la cuisine haute définition lorsqu'il était tout petit chez lui. Il avait 8 ans. Il venait de visionner un reportage à la télévision nippone sur le chef français Alain Chapelle. Son destin était tracé. Après une première expérience au Japon, il arrive en France pour travailler aux côtés des plus grands, dont Alain Ducasse. Ensuite, c'est une ascension fulgurante. Le restaurant qu'il ouvre à Paris reçoit une première étoile en 2012, un an seulement après son ouverture. 2 étoiles en 2017 et donc 3 étoiles cette année. On se met l'eau à la bouche avec l'une des signatures.
Nouvelle 6.
Le journal Le Parisien aujourd'hui en France annonce que pour la première fois, 50 restaurants seront distingués pour leurs efforts en matière de respect de l'environnement. Une nouvelle catégorie baptisée gastronomie durable. La distinction apparaîtra sur le site et l'application mobile du guide, représenté par un pictogramme en forme de feuille. Le Michelin veut mettre en avant une dynamique portée par des chefs qui s'engagent pour avoir un impact positif sur la planète et sur la société. L'un de ceux qui seront d'ailleurs récompensés ce soir et dont Le Parisien révèle le nom, c'est Bruno Verjus du restaurant La Table. Lui, il a pris l'habitude de travailler au jour le jour en fonction de ce que les producteurs lui apportent.
C'est
chaque
génial.
Matin. À lui ensuite de fabriquer son menu, si j'ose dire, au dernier moment. D'autres ont décidé de se lancer dans l'agriculture en cultivant leurs propres légumes et à moins de 50 km du restaurant.
Exercice 4. Vous allez entendre l'histoire de Dimitri, qui a ouvert le premier musée du skateboard. D'abord, vous aurez 45 secondes pour lire l'exercice ci-dessous. Puis vous entendrez l'enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, trouvez les éléments corrects dans la liste A à K pour compléter les phrases 1 à 8. Il y a deux éléments dont vous n'aurez pas besoin. Écrivez vos réponses dans les cases prévues sur la feuille de réponse. La première réponse, 0, est donnée en exemple. Après la deuxième écoute, vous aurez 45 secondes pour contrôler vos réponses.
Ce matin, direction Grigny, à 20 km de Lyon. C'est là qu'a ouvert cet été le premier musée en France dédié au skateboard. Son créateur, un Lyonnais de 36 ans, l'a aménagé dans sa maison. Christophe Vincent a rencontré Dimitri Jourdan, un passionné qui vit au rythme de la planche à roulettes.
Je mange skateboard, je dors skateboard, je couche skateboard, je fais tout skateboard.
Dans le sous-sol de la maison située entre Lyon et Vienne, le musée, sur 150 mètres carrés, l'aboutissement d'un rêve de gosse. Dimitri Jourdan a 10 ans quand il voit des skaters dans son quartier de la Croix-Rousse. On lui offre sa première planche, c'est le déclic.
C'était mon père qui m'emmenait en voiture. À l'époque, il y avait le skatepark de Charlemagne à Perrache. Maintenant, il y a Confluence à la place. Et du coup, il lisait des livres pendant que je skatais. Merci pour sa patience. Après, j'ai eu l'âge de moi skater tout seul. D'habiter à Croix-Rousse, c'était trop bien. Je faisais les pentes de la Croix-Rousse en skate. On descendait, puis on remontait pour redescendre en skate, et puis on remontait. Enfin, c'était cool.
Dimitri bourlingue avec ses parents en camping-car, Turquie, Maroc, Israël. Autant de pays, autant de planches qui enrichissent sa collection. Au voyage en famille succèdent les virées entre potes.
On partait entre bandes de skateurs à Barcelone, faire du skate, on explorait la ville en skate. Enfin, c'est tout a fait que je pouvais pas décrocher le skate.
À Lyon, bastion de la discipline, Dimitri vend des vêtements de skate et il entasse ses planches chinées dans les caves dans son appartement de Gerland. À l'étroit, la famille déménage à Grigny où Dimitri expose désormais près de 500 skateboards, dont celui du pionnier Tony Hawk, la légende rencontrée à Paris.
J'avais Tony Hawk à côté de moi sur mon stand. Il est reparti avec son skate et puis je sais pas, au bout de 10 minutes, il revient et on s'est dit mince, il a oublié un truc et tout. Et en fait, il est revenu et il m'a offert sa planche. Je lui ai demandé de me la signer, donc il me l'a dédicacée. Et du coup, la planche, elle est exposée au musée. C'est encore plus fou, ouais.
En 6 mois, le musée a déjà attiré 500 visiteurs.
Il y a énormément de nostalgiques qui viennent visiter. Tous les quarantenaires, ils viennent parce qu'ils retrouvent des souvenirs d'enfance, des planches qu'ils ont eues quand ils étaient gamins. Encore ce week-end, il y a un mec qui est venu visiter et il a versé une larme. Il a vu une planche de son enfance, ça lui a rappelé plein de souvenirs et il a été ému.
Le musée propose des planches des années 80 à nos jours, des revues d'époque, des cassettes VHS. Il comprend aussi une salle d'exposition avec actuellement les œuvres du peintre Midou.
Je crois qu'il y a à peu près 20 heures de boulot par planche de peinture. C'est assez fou. C'est de la peinture sur planche, mais il existe aussi des artistes qui font du skate recyclé, qui récupèrent des planches, mais qui font des sculptures, des œuvres d'art.
La maison-musée abrite la compagne de Dimitri, Marie et leurs 3 enfants, tous concernés.
Ça fait 10 ans qu'on est ensemble, donc il collectionnait déjà au début quand on était ensemble, donc forcément ça fait 10 ans que je baigne dedans, quoi. Tout le temps, que ce soit les vacances, dès qu'on va quelque part, on regarde si c'est un rapport avec le skate, s'il connaît quelqu'un, tout se relie. C'est devenu notre mode de vie, quoi, maintenant, on tourne autour du skateboard.
Et la famille, elle me suit, j'emmène mes gamins ce qui était avec moi, ça ils sont accros aussi, j'aurais donné mon syndrome. Je les force pas, mais là, en ce moment, c'est même eux qui me réclament d'aller skater au skatepark. Ouais. Quand on a commencé à faire les travaux, à installer le musée, le plus grand, il a eu le déclic et là, il a fond skate. Ouais.
Dimitri Jourdan attend beaucoup des JO de Paris en 2024 avec le skateboard, discipline officielle depuis les Jeux de Tokyo.
Je me souviens, en 1998, quand on a gagné la Coupe du Monde, toutes les communes elles ont créé des city-stades. Imaginons qu'on remporte des médailles olympiques, et ben peut-être que toutes les communes ou la ville de Lyon va agrandir les skateparks et c'est bien.
Dimitri caresse un nouveau rêve, aménager un skatepark dans son jardin.
Allez, le comme personne, c'était comme sur des roulettes ce matin. Il a été signé Christophe Vincent. Vous le retrouvez bien sûr sur le site de France Culture, franceculture.fr. Ce matin, direction Grigny, à 20 km de Lyon. C'est là qu'a ouvert cet été le premier musée en France dédié au skateboard. Son créateur, un Lyonnais de 36 ans, l'a aménagé dans sa maison. Christophe Vincent a rencontré Dimitri Jourdan, un passionné qui vit au rythme de la planche à roulettes.
Je mange skateboard, je dors skateboard, je couche skateboard, je fais tout skateboard.
Dans le sous-sol de la maison située entre Lyon et Vienne, le musée, sur 150 mètres carrés, l'aboutissement d'un rêve de gosse. Dimitri Jourdan a 10 ans quand il voit des skateurs dans son quartier de la Croix-Rousse. On lui offre sa première planche, c'est le déclic.
C'était mon père qui m'emmenait en voiture. À l'époque, il y avait le skatepark de Charlemagne à Perrache. Maintenant, il y a Confluence à la place. Et du coup, il lisait des livres pendant que je skatais. Merci pour sa patience. Après, j'ai eu l'âge de moi skater tout seul. D'habiter à Croix-Rousse, c'était trop bien. Je faisais les pentes de la Croix-Rousse en skate. On descendait, puis on remontait pour redescendre en skate, et puis on remontait. Enfin, c'était cool.
Dimitri bourlingue avec ses parents en camping-car, Turquie, Maroc, Israël. Autant de pays, autant de planches qui enrichissent sa collection. Au voyage en famille succèdent les virées entre potes.
On partait entre bandes de skateurs à Barcelone, faire du skate, on explorait la ville en skate. Enfin, c'est tout a fait que je pouvais pas décrocher le skate.
À Lyon, bastion de la discipline, Dimitri vend des vêtements de skate et il entasse ses planches chinées dans les caves dans son appartement de Gerland. À l'étroit, la famille déménage à Grigny où Dimitri expose désormais près de 500 skateboards, dont celui du pionnier Tony Hawk, la légende rencontrée à Paris.
J'avais Tony Hawk à côté de moi sur mon stand. Il est reparti avec son skate et puis je sais pas, au bout de 10 minutes, il revient et on s'est dit mince, il a oublié un truc et tout. Et en fait, il est revenu et il m'a offert sa planche. Je lui ai demandé de me la signer, donc il me l'a dédicacée. Et du coup, la planche, elle est exposée au musée. C'est encore plus fou, ouais.
En 6 mois, le musée a déjà attiré 500 visiteurs.
Il y a énormément de nostalgiques qui viennent visiter. Tous les quarantenaires, ils viennent parce qu'ils retrouvent des souvenirs d'enfance, des planches qu'ils ont eues quand ils étaient gamins. Encore ce week-end, il y a un mec qui est venu visiter et il a versé une larme. Il a vu une planche de son enfance, ça lui a rappelé plein de souvenirs et il a été ému.
Le musée propose des planches des années 80 à nos jours, des revues d'époque, des cassettes VHS. Il comprend aussi une salle d'exposition avec actuellement les œuvres du peintre Midou.
Je crois qu'il y a à peu près 20 heures de boulot par planche de peinture. C'est assez fou. C'est de la peinture sur planche, mais il existe aussi des artistes qui font du skate recyclé, qui récupèrent des planches, mais qui font des sculptures, des œuvres d'art.
La maison-musée abrite la compagne de Dimitri, Marie et leurs 3 enfants, tous concernés.
Ça fait 10 ans qu'on est ensemble, donc j'ai collectionné déjà au début quand on était ensemble, donc forcément ça fait 10 ans que je baigne dedans, quoi. Tout le temps, que ce soit les vacances, dès qu'on va quelque part, on regarde si c'est un rapport avec le skate, s'il connaît quelqu'un, tout se relie. C'est devenu notre mode de vie, quoi. Maintenant, c'est on tourne autour du skateboard.
Et la famille, elle me suit. J'emmène mes gamins skater avec moi. Ça, ils sont accros aussi. J'aurais donné mon syndrome. Je les force pas, mais là, en ce moment, c'est même eux qui me réclament d'aller skater au skatepark. Ouais. Quand on a commencé à faire les travaux, à installer le musée, le plus grand, il a eu le déclic et là, il a fond skate. Ouais.
Dimitri Jourdan attend beaucoup des JO de Paris en 2024 avec le skateboard, discipline officielle depuis les Jeux de Tokyo.
Je me souviens, en 1998, quand on a gagné la Coupe du Monde, toutes les communes elles ont créé des city-stades. Imaginons qu'on remporte des médailles olympiques, et ben peut-être que toutes les communes ou la ville de Lyon va agrandir les skateparks et c'est bien.
Dimitri caresse un nouveau rêve, aménager un skatepark dans son jardin.
Allez, le comme personne, c'était comme sur des roulettes ce matin. Il a été signé Christophe Vincent. Vous le retrouvez bien sûr sur le site de France Culture, franceculture.fr.
C'est la fin du test de compréhension orale.